2050.
Tu penses que ce serait bien,
2050, toi? #2050 le podcast, c'est votre rendez-vous. Chaque semaine, une rencontre, un regard, une vision tournée vers l'avenir. En plus de 20 minutes et en moins de 30, c'est 2050 qui se dessine au fil d'une discussion. #2050, c'est parti. Bonjour Thomas.
Bonjour Rebecca.
Je suis ravie de faire un épisode de #2050, le podcast, avec toi. Thomas, tu es mobilisé sur un projet qui s'appelle Du grain dans mon moulin. Est-ce que tu peux m'en dire quelques mots, s'il te plaît?
Oui. Alors, Du grain dans mon moulin, c'est un projet qui est porté par deux associations. Donc, l'idée, c'est d'avoir un groupe de jeunes qui travaillent sur le sujet de l'alimentation. C'est vrai qu'on s'est rendu compte, après nos années d'étudiants, qu'on avait vraiment consommé, on a très mal consommé, on va dire. Donc, fast-food, les kebabs, les plats préparés.
La vie étudiante, quoi.
Exactement, la vie étudiante, et on ne s'est pas trop préoccupé de ça. Et on s'est rendu compte qu'en fait, on avait pris de mauvaises habitudes. Et donc là, on voulait vraiment se réapproprier l'alimentation. Et donc, l'idée de cette web-série, c'est d'aller rencontrer les acteurs de l'alimentation pour apprendre justement à mieux consommer. Donc, autant par l'achat que par le produit en lui-même.
D'accord. Donc, une web-série, donc des épisodes où vous allez à la rencontre, comme tu le disais, l'écosystème de l'alimentation.
Voilà, c'est ça, oui. Donc, on va rencontrer donc, des professionnels. Donc, ça peut être des agriculteurs, ça peut être des distributeurs, des consommateurs, ça peut être des associations, des professionnels de la santé. Donc, toutes les personnes qui sont impliquées, justement, dans le milieu alimentaire.
D'accord. Alors, deux associations à l'origine du projet, l'association Récup ta caisse, une association basée à Rennes mais bientôt normande.
C'est ça.
Parce que c'est vrai que là nous sommes à Caen, on va en parler un peu plus tout à l'heure. Et tu présides cette association?
Oui, alors je préside cette association. Donc, c'est une association qui à la base était plutôt axée sur la consommation responsable, donc le recyclage, la récupération d'objets. Et on a voulu ouvrir une branche sur l'alimentation. Et donc l'autre association qui supporte le projet, c'est l'association SPOT, elle aussi basée à Rennes, elle qui fait de la production audiovisuelle, donc à titre associatif.
Très bien. Alors, bel exemple, la Bretagne et la Normandie, nous ne sommes pas des frères ennemis.
Mais non, du tout. Réunis ensemble.
Alors, vous l'avez compris, on va parler ensemble avec Thomas de bien manger, comment mieux manger. C'est vraiment la question qui est le fil conducteur de ton travail. Et puis, tu disais une association de jeunes, c'est quoi votre tranche d'âge?
Alors, on est plutôt sur du 24-35 ans. Quoi.
D'accord, c'est toujours jeune. C'est toujours jeune. Alors, quand tu regardes aujourd'hui ce que l'on met dans nos assiettes, en 2017, justement, tu commençais à le dire, quand vous étiez étudiant avec tes potes, ta troupe d'amis, vous ne mangiez pas très très bien. Mais quand on élargit à la population et peut-être à la France en général, qu'est-ce qui t'interpelle?
Eh bien, c'est vraiment voir que les repas ont beaucoup changé. Alors, c'est surtout quand on regarde en arrière, en fait, il y a 50 ans, l'alimentation n'était pas du tout pareille. C'est vrai que là, il y a eu la création d'un label bio, par exemple. Il y a 50 ans, ça n'existait pas parce que c'était, il y a 60 ans plutôt, avant la Deuxième Guerre mondiale, c'était la normalité de manger comme ça. Et c'est vrai que maintenant, on est arrivé avec des produits beaucoup plus industriels et avec du sucre, du sel, enfin beaucoup de sel. Et voilà, on arrive maintenant, il me semble que c'est 2 milliards d'obèses dans le monde, donc c'est quand même énorme justement. Et donc voilà, après, on a oublié un peu d'où venaient les produits et au niveau nutritionnel, c'est vrai qu'ils ont beaucoup moins de valeur nutritive qu'il y a 60 ans. Quoi.
Alors aujourd'hui, pour parler de nos assiettes, on est dans un lieu justement qui fait sens parce que tu as choisi de nous recevoir à la Maison des Solidarités de Caen. Et dans cette Maison des Solidarités, la question de l'assiette, elle est présente finalement à travers certaines associations. Tu peux me présenter rapidement ce lieu?
Alors justement, la maison accueille une dizaine d'associations, dont trois qui font sens avec l'alimentation. Alors on a par exemple Terre de Liens, on a aussi une association qui s'appelle Normandie Équitable, qui a rédigé un petit livre pour bien consommer autour de Caen.
C'est un petit guide qui s'appelle L'Atypique.
Voilà, c'est ça.
Les petits onglets, on trouve vraiment à la fois les distributeurs, les cafés, etc. Sur l'alimentation, mais pas que d'ailleurs.
Mais pas que, voilà. Et, Et la Confédération paysanne aussi, qui est hébergée ici. Donc, c'est vrai que le thème de l'alimentation est aussi bien présent ici. Donc,
Et d'ailleurs, dans ce lieu, il y a un petit espace café. C'est là que nous sommes installés pour l'enregistrement. Et donc, je suis en train de boire un jus de pomme raisin bio avec un petit sablé aussi qui l'est tout autant. Donc, voilà.
C'est ça.
On essaye d'être cohérent avec notre thème.
Exactement, voilà. Oui, il y a aussi une vente de produits locaux donc, et bio. Donc, voilà. Ça fait sens avec le sujet.
Alors, tu le disais, aujourd'hui, en 2017, une alimentation dont on a un peu perdu le fil, finalement, on ne sait plus exactement ce que l'on a dans nos assiettes. On voit que les mouvements, et ce que tu fais avec du grain dans mon moulin en est le témoignage, qu'il y a de plus en plus, on se re-questionne justement sur ces questions alimentaires. Et tu as l'impression que c'est quelque chose, une réflexion de niche réservée à une petite partie de la population, ou c'est quelque chose de plus grand ?
Non, j'ai l'impression quand même que c'est un mouvement qui est en train de se créer, enfin une problématique que de plus en plus de personnes se posent. On va dire depuis 2-3 ans, il y a eu pas mal de scandales au niveau alimentaire. Donc, alors avec l'affaire Spanghero par exemple, on a eu aussi l'affaire des pesticides, le fait que des entreprises utilisent beaucoup d'huile de palme, et donc ce qui implique de la déforestation. Donc voilà. Et la population était mise au courant de tout ça, et de plus en plus de personnes justement se posent la question et essayent de consommer différemment. Quoi.
Alors justement, là, dans ton exemple, tu as évoqué l'huile de palme et la déforestation. Ça veut dire que toi, dans ta réflexion, elle n'est pas franco-française. C'est vraiment une mieux manger, c'est faire le lien entre ce qu'on a dans notre assiette et ce qui peut se passer à l'autre bout du monde.
Oui, alors nous, justement, on travaille surtout sur la problématique française, mais c'est vrai qu'on n'est pas insensible à ce qui se passe à l'international, et c'est vrai qu'il y a des produits qui viennent de l'étranger qui peuvent se retrouver dans nos assiettes. Je pense surtout aux biscuits, par exemple, pour l'huile de palme, où c'est à nous, nous consommateurs, de bien choisir le produit qu'on va acheter. Quoi.
Ouais. Alors, cette web-série, bientôt quelques épisodes voilà, qui sortiront régulièrement. J'aime bien les épisodes parce que ça pose une temporalité, un rythme, et puis ce rythme, ça fait avancer dans le temps. Alors avançons jusque en 2050. Et ouais, ce fameux horizon, une trentaine d'années, tu ne seras plus aussi jeune qu'aujourd'hui, Thomas.
Non, malheureusement.
Et que mangeras-tu en 2050 ?
Alors, très bonne question. Déjà, je pense que je mangerai beaucoup moins de viande. C'est vrai que voilà, la viande, c'est une problématique aussi actuelle, où, avec la consommation d'eau, les émissions de gaz à effet de serre que ça implique. Je pense qu'on sera dans une société où on mangera beaucoup moins de viande. J'espère en tout cas de meilleure qualité. Et alors, c'est vrai qu'il y a des aliments qui vont peut-être arriver, comme les insectes. C'est vrai que c'est une... C'est des aliments qui arrivent petit à petit sur le marché.
Sur le marché européen et français.
Oui, bien sûr. Ouais. Et donc voilà, je pense qu'il y aura une tendance à se transformer comme ça. Peut-être aussi des produits bien plus respectueux de l'environnement, du fait que maintenant la formation circule très vite, et que dès qu'une entreprise est un peu dans le viseur de certaines associations, ça se fait savoir assez rapidement et les consommateurs réagissent en conséquence. Donc,
Donc t'imagines qu'en 2050, ce que l'on appelle les lanceurs d'alerte aujourd'hui, qui ne sont pas forcément bien encadrés, protégés par la loi, mais en tout cas, ils seront actifs sur les questions alimentaires.
Je pense, oui. Après, il y a aussi des associations justement qui essayent de supporter justement ce rôle de lanceur d'alerte. Et j'ai par exemple l'exemple d'une association qui s'appelle iBoycott, qui appelle les grandes firmes à stopper telle ou telle pratique. C'est à la demande des consommateurs, des adhérents de l'association. Et donc voilà, donc c'est le genre d'association qui peut pousser les industriels et même les distributeurs à changer leur comportement, à l'améliorer en tout cas.
Alors, tu as un peu évoqué ce que nous pourrions avoir dans nos assiettes, et j'aimerais qu'on évoque aussi... ces produits, comment ils arriveront jusqu'à nos assiettes ? Est-ce qu'aujourd'hui, on a une agriculture complètement mondialisée ? On sait à quel point les agriculteurs dans le monde, mais notamment français, ne vivent pas convenablement, finalement, de leur travail, qu'ils sont exposés à des produits polluants, on sait les conséquences en termes de santé. Comment tu vois les choses, toi, pour 2050, là-dessus, sur ce cheminement entre le champ et l'assiette ?
Je pense que l'idée du champ aussi va peut-être un peu se transformer. On parle beaucoup d'agriculture urbaine en ce moment. C'est vrai que les villes commencent à s'investir. Il y a par exemple la ville d'Albi qui essaye de faire un travail là-dessus et d'être autosuffisante. Et donc alors ça implique que certaines entreprises, par exemple, installent des ruches sur leur toit ou des petits carrés de potager. Et même les citadins, de plus en plus, ont leur petit potager, essayent de faire pousser des cerises, des tomates, des salades. Des cerises, pardon, des tomates cerises.
Oui.
De la salade, par exemple, ou des choses comme ça. Et je pense que la population va se réapproprier petit à petit l'alimentation. Et je pense que aussi les distributeurs vont faire un effort. On a par exemple l'exemple de la marque du consommateur, donc C'est qui le patron, qui a proposé aux consommateurs de choisir différents critères pour définir un produit final. Et donc là, on a par exemple une brique de lait qui coûte 20-30 centimes plus cher, mais les consommateurs connaissent vraiment le cheminement et la traçabilité du produit et sont prêts à dépenser même un petit peu plus, mais pour avoir des pratiques beaucoup plus respectables et respectueuses de l'environnement.
Ouais. Donc aujourd'hui, le concept des villes comestibles, on a vu naître à Todd Morden notamment avec les incroyables comestibles, Albi qui en prend le chemin. En 2050, ça sera quelque chose de totalement banal.
Honnêtement, je pense que oui, il y aura certainement un effort de fait sur la restauration collective notamment. Mmh. On voit que déjà petit à petit, la législation est en train de faire en sorte qu'on mette du bio, du local dans les cantines. Et à long terme, voilà, j'espère que c'est vrai que la restauration collective, c'est l'exemple à suivre. Donc que l'effort soit fourni aussi de ce point de vue-là.
Alors les agriculteurs dans tout ça, comment vivront-ils? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, un agriculteur qui a conventionnel, on va dire, qui a acheté des parcelles, des centaines d'hectares, qui a acheté énormément de matériel, donc qui utilise des intrants chimiques, qu'est-ce qu'il deviendra en 2050, cet agriculteur-là?
Déjà, je pense qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui actuellement se convertissent au bio, ou alors qui font, beaucoup d'agriculteurs conventionnels ne vont pas forcément demander le label bio, mais vont faire des efforts en donnant moins d'antibiotiques à leurs animaux, en mettant beaucoup plus les animaux, leurs vaches à l'herbe, avec moins d'utilisation de pesticides. Et je pense que ça serait une réponse aussi à ça. Et alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gros élevages, et ceux-là, je pense, vont rester. Ce qu'il faut quand même, je ne pense pas qu'à horizon 2050, la productivité ne soit plus de mise. Mais je pense que proportionnellement, il y aura beaucoup plus de paysans et d'agriculteurs bio, par exemple, que d'agriculteurs conventionnels. C'est vrai que là, on est sur une tranche de 5 à 10% et 90% de conventionnels. Mais je pense que tout le monde peut s'en sortir si tout le monde essaye de respecter les règles du jeu.
Alors, 2050, c'est dans 33 ans. J'aimerais qu'on évoque un peu la partie institutionnelle ou en termes de politique publique, parce que pour passer d'un monde actuel à celui qu'on envisage, qu'on peut espérer, qu'est-ce qui va faire la transition? Est-ce que c'est des politiques européennes qui, voilà, la PAC va complètement être repensée, réorientée? Est-ce que ce sont plutôt les territoires qui vont mettre à disposition, à avoir des politiques foncières pour que ces agriculteurs, avec des plus petites fermes, tu le dis des paysans d'ailleurs, s'installent? Tu vois où le principal levier de cette transition?
Moi, je pense que ça va plus... l'émergence va être plutôt du côté local. C'est vrai qu'en général, c'est le consommateur qui fait que la législation change. Et pour moi, ouais, à mon avis, ça va être plutôt au niveau local qu'il va y avoir des exemples à suivre. Et derrière, ça fera effet boule de neige. Donc pour moi, voilà, à mon avis, il y aura beaucoup d'efforts mis là-dessus. Et surtout, j'espère en tout cas sur l'éducation aussi. C'est vrai que nos jeunes, je suis encore jeune aussi, mais les plus jeunes... vont essayer de... Ça serait une bonne chose de leur apprendre les bases de l'alimentation et de leur faire comprendre que voilà, c'est pas simplement mettre un produit dans son caddie. Il y a tout un cheminement derrière qu'il faut penser. Quoi.
Et puis, alors les consommateurs, tu as dit, c'est important. N'empêche qu'aujourd'hui, tout ce qui est produits bio sont un peu plus chers quand on compare... Voilà, on ne compare pas un type d'alimentation et une autre, mais le produit, c'est un peu plus cher. On dit beaucoup que c'est quelque chose réservé aux bobos urbains. En 2050, pour changer les choses, comment on va rendre accessible cette meilleure alimentation au plus grand nombre.
Bah déjà, je pense que, enfin, il y a beaucoup plus de demandes que d'offres, en tout cas à l'heure actuelle. Et plus il y aura de consommateurs à aller dans cette direction-là, moins le prix sera élevé. Mmh. Donc, alors c'est vrai que là...
Faudra jouer en fait sur les leviers un peu classiques de l'offre et de la demande.
Voilà, je pense que ça va se jouer comme ça. Alors après, il y a des circuits qui sont un peu plus courts. Je pense par exemple aux AMAP, où là, les produits restent quand même...
Association de maintien d'une agriculture paysanne.
Voilà, merci de le préciser. Et non, je pense que ce genre de circuit va... Enfin, permet en tout cas à l'heure actuelle d'acheter des produits de qualité et à prix équivalent. Mmh. Après, c'est vrai que je pense qu'il va falloir quand même que chaque consommateur dépense peut-être un petit peu plus, mais ça se répercutera sur les dépenses en santé, par exemple. C'est vrai que l'alimentation et la santé, il y a beaucoup de liens entre les deux, et je pense que, ouais, notamment, c'est là-dessus que ça va se jouer.
D'accord, donc ça c'est intéressant de faire ce lien parce que tout à l'heure on évoquait rapidement les politiques publiques, mais ça veut dire qu'on peut imaginer que les politiques publiques se disent accompagner une agriculture plus propre, plus saine, c'est faire des économies à moyen long terme sur de la santé, on peut penser au cancer notamment, à toutes les causes environnementales, donc c'est vraiment une approche globale qu'il faut
avoir
pour finalement repenser son assiette.
Ah oui, complètement. Oui, c'est vrai que, enfin, même le bien-être et la santé, c'est dépendant aussi de son alimentation. Et le fait d'avoir beaucoup de sel, de sucre, c'est vrai qu'à court terme, les industriels gagnent de l'argent, on va dire. Mais à long terme, c'est préjudiciable. Et je pense qu'eux aussi vont s'en rendre compte et changer un peu leur mode de fonctionnement.
Alors, j'ai amené un livre. Je te propose, Thomas, d'en lire le titre.
Alors, ce livre s'intitule « Assiette végétarienne » et « Plat unique ».
Ouais. C'est un livre de recettes que j'ai tout simplement dans ma cuisine. Tu l'as dit tout à l'heure, en 2050, tu imagines que tu mangeras beaucoup moins de viande. Il y a déjà une partie de la population planétaire qui est végétarienne, mais est-ce que ça deviendra finalement totalement intégré, courant? Est-ce que, je sais pas moi, plus de la moitié de la population française pourrait être devenue végétarienne d'ici 30 ans?
Je pense qu'il y aura beaucoup plus qu'à l'heure actuelle, en tout cas de végétariens. Je sais pas si ça restera le modèle, comment dire, le modèle qui a la solution. Il y a un modèle qui existe dernièrement, là j'avais entendu parler de flexitarien. Oui. Donc c'est des personnes qui consomment beaucoup moins de viande, des produits de qualité et beaucoup plus de légumes. Et je pense qu'on va plus se diriger vers une tendance comme celle-ci qu'une tendance qui peut être perçue comme un peu radicale de végétarien.
Alors en termes de tendance radicale, il y a aussi le véganisme dont on entend beaucoup parler en ce moment, je trouve. Là aussi, c'est un modèle, alors pas qu'alimentaire, parce que le véganisme, ça va au-delà, hein, c'est aussi dans l'habillement, etc. Ça aussi, ça peut pas permettre de mieux manger en 2050.
Ça peut éventuellement permettre de mieux manger en 2050, c'est vrai. Après, je pense que les apports nutritifs de la viande sont ce qu'ils sont, et c'est vrai que c'est difficile de remplacer, par exemple, les apports d'un steak avec, je sais pas, 2 kilos de soja, par exemple. Mais ça peut être une solution, et puis c'est une idéologie aussi qui est tout à fait respectable. Je pense que oui, on va tendre aussi à beaucoup plus de véganes et de végétariens.
Alors, continuons à rester en 2050. On se retrouve autour, chez moi, Thomas, en 2050, autour d'une table. Quel pourrait être notre menu et qu'est-ce qui pourrait impliquer, justement, en termes de mieux manger?
Alors, notre menu, j'espère que tes tomates cerises, par exemple, viendront de ton petit,
voilà,
ta petite jardinière. Voilà.
Tomates cerises qu'on sera allé cueillir justement ensemble, peut-être, dans le jardin.
Peut-être. des insectes aussi, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'insectes grillés qui se font à l'apéro, et ça, c'est des choses qui se font de plus en plus. Et,
alors, plein de protéines.
Plein de protéines, en plus. Après, c'est vrai qu'il y a peut-être un peu de... Beaucoup de gens qui vont être réfractaires à ça, en tout cas pour le moment, parce que c'est pas encore rentré dans les mœurs. Ouais. Mais je pense qu'à horizon 2050, on aura beaucoup plus de consommation d'insectes. Mmh. Alors le plat principal, peut-être un peu moins de viande, mais une viande de meilleure qualité et beaucoup plus nutritive.
On sera allé choisir chez un boucher, un artisan boucher,
qui
connaîtra toute l'histoire finalement de la viande qu'il propose.
Exactement, voilà. Qui aura été acheter sa viande chez un agriculteur qui est juste à côté de chez lui, dans le département, dans sa région. Et donc voilà, alors après peut-être que les produits sucrés le seront un petit peu moins aussi, en tout cas je l'espère.
Et moins de sel, moins de sucre.
Moins de sel, moins de sucre, ouais. C'est vrai que bon, je parlais de santé justement, c'est un problème. Et le fait de réduire un petit peu ces deux ingrédients, je pense que ça ferait pas de mal.
Ouais. Alors moins de viande, le plat principal. Et en dessert, est-ce qu'on pourra encore se permettre par exemple un dessert tout chocolat ? Le chocolat, donc le cacao, qui forcément vient de plus loin. On sait qu'il y a eu des mouvements importants sur le prix de cette matière première, qui a des impacts sur les pays producteurs, notamment en Afrique. Comment est-ce que voilà, ces produits, ça sera devenu un luxe, le chocolat par exemple ?
Je pense que ça deviendra un luxe. En tout cas, je pense sérieusement que le prix du chocolat va augmenter. C'est vrai que... Au niveau de répartition des revenus sur le chocolat, c'est vrai que bon, on va dire qu'on n'y est pas du tout. Mmh. Et je pense que les consommateurs seront prêts à payer un petit peu plus cher, en manger moins souvent, mais payer un peu plus cher et en manger lors de grandes occasions.
Ouais. Alors, pour pouvoir justement accepter ce prix plus juste finalement, ça veut dire qu'en 30 ans, il y a de la pédagogie à faire pour expliquer le vrai prix des choses et le coût global, avoir une approche. En coût global, aujourd'hui on voit des choses qui avancent, de plus en plus de personnes connaissent un peu la notion d'empreinte carbone. Là aussi, est-ce que ça veut dire que dans l'éducation, c'est pas uniquement savoir à quoi ressemble un produit brut, c'est aussi connaître les impacts ?
Oui, bien sûr, c'est justement c'est un travail qu'il faut faire au niveau de l'éducation, donc autant au niveau des professeurs, des écoles, dès le plus jeune âge, leur faire comprendre un peu toute la traçabilité du produit, pourquoi est-ce que notre cookies est comme ça, d'où est-ce qu'il vient ce chocolat, et leur faire prendre conscience que ça a un prix, voilà.
D'accord. Alors, c'est drôle parce que à l'heure où nous enregistrons, il est à peu près 18h40, et le fait de parler assiette, alimentation, ça me donne faim. Tant mieux, j'espère que je pourrai manger quelque chose de sain, de local, etc. ce soir. Mais avant de passer à l'heure de l'apéritif, Thomas, j'aimerais que tu formules un vœu pour 2050.
Alors, si je devais formuler un vœu, ça serait que... Dans toute la restauration collective, donc autant en prison qu'en maison de retraite, qu'en cantine scolaire ou cantine d'entreprise, allez, on peut dire à 70%, ça soit un approvisionnement local, donc de la région ou de la région voisine, mais vraiment, ça aurait beaucoup de sens, même rien qu'au niveau économique. On serait approprierait déjà notre alimentation et puis aussi on ferait vivre tout un secteur autour de nous. Quoi. Donc voilà, je croise les doigts.
Alors, c'est un très beau vœu. Et ce qui m'interpelle d'ailleurs dans sa formulation, c'est que le premier exemple que tu prends, c'est celui de la restauration collective en prison. Parce que c'est vrai que quand on parle de restauration collective, de bio et de local, essentiellement on pense l'école primaire, le collège, les lycées, et puis après, voilà. Mais pourquoi justement cette réflexion sur d'intégrer tout de suite les prisons ?
Parce que je pense que déjà, j'en parlais tout à l'heure, le fait de bien manger, c'est aussi avoir un bien-être. Mmh. Et porter cette réflexion-là, c'est aussi, ça va bien plus loin que de manger une pomme de terre. C'est aussi respecter aussi l'environnement et comprendre que voilà...
Respecter les personnes qui mangent.
Voilà, aussi. Exactement, ouais. Mmh. Et voilà, je pense que c'est une approche qui pourrait être éventuellement...
Socialisante.
Voilà, socialisante, ouais. Mmh. Et voilà, et faire prendre conscience aussi que la vie est belle, entre guillemets, et que voilà.
Très bien. Ben, merci beaucoup, Thomas, pour cette conversation qui s'achève déjà. Mais de toute façon, on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode dès la semaine prochaine, pour une nouvelle rencontre, un nouveau lieu, une nouvelle thématique tournée vers l'avenir. Et puis, donc, on se retrouve très très vite, à très bientôt. Et d'ici là, soyons toujours curieux.